Frères et sœurs, c'est le temps des vacances et parfois le temps du tourisme. Et il est deux manières de faire du tourisme. Il y a ceux qui partent avec un guide touristique et qui vont visiter les places, les sites, les monuments que ce site recommande. Et puis il y a ceux qui partent à l'aventure, qui ne savent pas trop où leurs pas les mèneront. Eh bien, lire la Bible, c'est un peu partir en voyage. On peut choisir de suivre un guide touristique. Ce sont les guides de lecture biblique pour parcourir en 3 ans ou en 6 ans la Bible. Et tous les 3 ans ou tous les 6 ans, on retrouve ces gros monuments de la Bible. Et puis, il y a l'occasion de sortir des sentiers battus. Et c'est en général la démarche que nous adoptons. Ne pas s'en tenir au guide de lecture biblique, mais butiner selon ce que nos découvertes nous proposent. Et ce matin, justement, j'aimerais que nous allions dans le livre du Deutéronome, au chapitre 22, pour y lire des versets qu'en général on ne lit pas, parce qu'ils sont entre le Décalogue et ces paroles que nous avons entendues, deux grands monuments du livre du Deutéronome, et inévitablement au chapitre 22, ces versets 6 et 7 que je vais vous lire ne sont pas très connus. Ils vont peut-être même vous surprendre, car voici ce que nous recommande ce passage du Deutéronome. Deux petits versets. Soyons très attentifs, ça va être très rapide. Si tu rencontres dans ton chemin, un nid d'oiseau, sur un arbre quelconque, ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Tu feras partir la mère, et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux, et que tes jours se prolongent. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Frères et sœurs, je vous propose d'ouvrir notre recueil de chants, louanges et prières au cantique 400 pour exprimer notre désir d'entendre un message qui nous vienne de Dieu. Chantons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique. Et levons-nous.
Thank you.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta parole, ta volonté, et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous te prions pour que ce matin, elle vienne une nouvelle fois encore arroser et féconder notre terre, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, pour qu'elle soit semence pour toute notre vie et nourriture sur notre route. Chers frères et sœurs, à première lecture, vous en conviendrez, ces deux versets du livre du Deutéronome semblent non seulement bien anodins, mais à vrai dire un peu dérisoires. Que viennent-ils faire dans notre Bible ? Ces deux versets n'ont rien de l'Arc de Triomphe, ils n'ont rien de la place de la Madeleine. Ils n'ont rien du Louvre, ça semble être plutôt les bas quartiers, en quelque sorte, d'une visite de la Bible. Et pourquoi, d'un seul coup, la Bible s'intéresserait-elle au sort de quelques oisillons et qui, au demeurant, sont bien au chaud sous leur mère ? Ça, c'est la première surprise. La deuxième surprise, c'est peut-être d'entendre que non seulement une telle histoire figure dans la Bible, mais qu'en plus elle est un peu choquante, cette histoire. Pourquoi donc renvoyer la mer ? On s'attendrait plutôt, et notre instinct nous pousserait plutôt, à faire en sorte de laisser bien au chaud ces oisillons et ces œufs sous leur mère. Et même, si la mer venait à manquer, nous serions plutôt enclins à essayer de retrouver cette mer, ou à faire en sorte qu'elle puisse retrouver son nid. Mais il y a encore un autre étonnement. Et ce qui peut frapper le lecteur, surtout si le lecteur est un homme, c'est qu'il n'est pas question du père. On ne parle que de la mère, des oisillons et des œufs. On ne parle pas du père, juste de la mère et des enfants. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, il faut bien qu'il y ait un père pour qu'il y ait des petits. Mais on ne parle que de la mère et pas du père. L'hypothèse du renvoi du père n'est même pas suggérée, seulement celui de la mère. Alors les esprits un peu taquins, évidemment, diront « il est question des enfants, donc c'est normal qu'on parle de la mère ». Le père, en général, est souvent absent dès qu'il s'agit de l'éducation des enfants. Et je suis heureux que certains pères manifestent un peu de perplexité. Pour ma part, je vous propose d'y entendre un enseignement un peu plus profond que cela. Et pour cela, mettons-nous en situation. Nous sommes sur un chemin, par exemple un sentier de grande randonnée, et nous suivons attentivement les marques blanches et rouges qui jalonnent ce chemin. Et tout à coup, sur ce chemin où nous avançons pas à pas, balise après balise, voilà un nid d'oiseaux. Tout à coup, sur ce chemin, sans qu'on ait pu s'y préparer, sans qu'on s'y attende, un nid d'oiseaux. Et bien souvent, les scouts ont fait cette expérience-là. Sur leur chemin, un nid d'oiseaux par terre, ou un petit oisillon qui est tombé de l'arbre. Tout à coup, comme par hasard en quelque sorte, c'est ce que le texte hébreu suggère lorsque nous le traduisons littéralement, comme un nid d'oiseaux surviendra devant toi en chemin. C'est en quelque sorte un nid d'oiseaux qui apparaît subitement. Quelque chose surgit de façon inattendue, par hasard en quelque sorte, sur un chemin, sur une voie qui, elle, ne doit rien au hasard, qui n'est pas de l'ordre de l'inconnu, qui n'est pas de l'ordre de l'imprévisible, parce que le chemin est une voie qui a été tracée au préalable. Et donc voilà un événement qui advient sur notre chemin quotidien. Et cet événement, c'est un nid d'oiseaux. Alors, si nous voulions sortir du domaine purement animalier, nous pourrions nous retrouver en pleine ville, où tout à coup surgit une maternité. Nous sommes du côté de Reuilly, et voilà la maternité des diaconesses de Reuilly. Qu'y a-t-il dans cette maternité ? Évidemment, des nouveau-nés, des petits. Et que s'attend-on à voir à côté de ces nouveau-nés ? Évidemment, leur mère. On ne s'attend pas forcément à voir le père, mais on s'attend nécessairement à voir la mère. Et il en va de même pour le nid d'oiseaux. Dans le domaine agricole, on pourrait dire que près du fruit mûr, on s'attend à voir l'arbre. Et dans le langage philosophique, on pourrait dire que près de l'effet, on s'attend à voir la cause. Et voilà pourquoi il n'est pas question du père, je pense, dans notre histoire. C'est que le rédacteur cherche à mettre en scène le lien de cause à effet le plus classique qui soit, le plus évident, le plus immédiat. La naissance d'un être vivant renvoie nécessairement et en premier lieu à la maternité. La paternité, elle, est moins évidente. Elle se fera ensuite par la parole de reconnaissance que la mère aura au sujet du père. Alors, que veut nous dire ce texte ? Que veut-il nous apprendre sur le lien de cause à effet, sur le lien de causalité ? Eh bien, si tu rencontres sur ton chemin, bien tracé par avance, un nid, c'est-à-dire le lieu du possible, le lieu de ce qui est à venir, un lieu d'avenir, mais qu'une cause est couchée sur les faits, renvoie la cause et saisit les faits. Autrement dit, ce texte nous enjoint à rompre ce lien de cause à effet. Le texte biblique nous invite à créer une rupture entre ces deux éléments, qui semblent liées de façon extrêmement étroite, et peut-être aussi étroite que le lien qu'il y a entre une mère et ses enfants. Renvoie la mère et prends les enfants. Parole on ne peut plus dure pour toutes ces mères qui portent leur enfant dans les bras, évidemment. Et pourtant, c'est ce que nous recommande le texte. Heureusement, il ne s'agit là que d'une image, d'une métaphore. Ce ne sont pas forcément les mères qui sont à séparer de leur enfant, mais tout ce qui est une cause qui viendrait se poser sur les faits, sur la conséquence. Renvoie la mère et prends les enfants. Coupe le cordon ombilical, en quelque sorte. Et Jésus lui-même, d'ailleurs, ne procédera pas autrement, en affirmant qu'il est venu pour séparer ce qui était uni par un lien ombilical, qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais bien plutôt le glaive. Et cela, nous pouvons le lire, par exemple, sous la plume de l'évangéliste Matthieu. Un chemin, nous l'avons dit, c'est quelque chose de tracé par avance, quelque chose qui est entièrement connu. Quiconque aura fait un peu de mathématiques pourra d'ailleurs reconnaître là l'image d'une fonction géométrique. Par exemple, y égale x au carré. Cette fonction, c'est un peu comme un chemin que l'on peut parcourir sur un graphique et qui est d'ailleurs un graphique qui a la forme d'une parabole. C'est peut-être la courbe que nous connaissons le mieux. Eh bien, ce qu'il y a de particulier sur ce genre de fonction, c'est qu'il n'y a pas de lieu indéterminé. Où que vous soyez, vous savez où vous serez à l'étape suivante. Le chemin est entièrement balisé par avance. Par exemple, si vous êtes sur le point 4, vous êtes à une hauteur de 16, parce que 4 au carré, ça fait 16. 4 fois 4, 16. Et du coup, si vous reculez un peu sur la case 3, vous savez qu'immanquablement, vous serez à une hauteur de 9. En revanche, si vous aviez avancé de 1 sur la case 5, vous seriez à une hauteur de 25. Pas de place pour le hasard, pas de place pour l'incertitude. Tout est bien millimétré. Alors, ce genre de chemin, ce genre de graphique, c'est ce qui peut permettre à chacun de pouvoir prédire, en quelque sorte, la suite de l'histoire. Eh bien, voyez-vous, à une lecture de l'histoire humaine qui serait semblable à la lecture de la représentation graphique d'une fonction géométrique, c'est-à-dire, sans surprise, entièrement liée à ce qu'on pourrait appeler un destin écrit par avance, que nous pourrions lire dans un grand livre de la vie, eh bien, notre foi oppose de manière assez radicale quand même cet impératif contenu dans le livre du Deutéronome, la possibilité de l'inattendu, la possibilité de l'événement qui surgit au milieu d'une histoire bien huilée et bien réglée comme du papier à musique. Et cet inattendu, non seulement peut advenir, mais en plus il nous appartient de le prolonger et de faire en sorte que nous le dégagions de tout ce qui pourrait être une forme de déterminisme et qui viendrait à l'étouffer, comme cette mère un peu trop bien installée sur ses oisillons et sur ses œufs. En quelque sorte, nous devons faire en sorte que jamais ce qui surgit, ce qui advient, ne soit étouffé dans l'œuf. Une telle manière d'agir, c'est ce qui nous offre la possibilité de n'être pas seulement ce que nous avons reçu de nos parents. C'est la possibilité d'être plus que la somme de leurs qualités, par exemple. Plus également que la somme de leurs liens d'amitié ou professionnels. Plus que la somme de leurs échecs, et évidemment, plus que la somme de leurs réussites. En termes mathématiques, cela revient à dire qu'il y a de l'indéterminé dans un système foncièrement déterministe. Dans le langage théologique, c'est une manière de dire qu'il y a de la place pour la grâce divine. Dans un temps qui serait linéaire, continu, qui s'écoulerait un peu comme l'eau d'un fleuve tranquille, eh bien voilà que Dieu introduit du neuf, introduit de l'inattendu, et qu'il nous appartient de donner une suite à cet inattendu, à ce neuf, à cet imprévisible. Là où tout était bien déterminé, là où tout était bien verrouillé en quelque sorte, il y a soudain de l'imprévu et de la surprise. Soudainement, l'histoire qui semblait sans surprise est bien malmenée. Alors je ne sais pas si tout à l'heure, c'est quelqu'un qui passera devant Contador et qui lui ravira le maillot jaune. Je ne sais pas si quelqu'un pourra remporter le maillot vert à la place de Torusoft. Je crois que les dés sont jetés pour le maillot vert, sauf s'il vient à tomber. Mais voilà que de l'imprévu est toujours possible. Et que pour ce qui nous appartient, il s'agit de poursuivre cet imprévu-là. Car ce signe de la grâce de Dieu, il faut que nous en fassions notre propre chemin de vie. Et c'est ainsi, voyez-vous, que l'impasse de la mer des joncs devient un véritable boulevard devant Moïse et les fils d'Israël qui sortent d'Égypte. Et c'est ainsi que, dans des récits évangéliques, le flot de sang continu d'une femme qui se précipite un jour vers Jésus cesse soudainement. De même que le sommeil mortel de la fille de Jaïrus et Jésus lui-même. Deux jours après avoir été déposé dans un tombeau, une sorte de nid, bien verrouillé, bien cadenassé par une pierre, eh bien Jésus ne sera plus là où on l'attend. Il s'agit là de quelques grâces, de quelques étincelles de grâce qui devraient mettre le feu aux poudres de notre existence. Ces étincelles de grâce divine font irruption au cœur d'un destin que certains voudraient sceller, mais ce destin ne cesse de se tordre sous la pression de ceux qui refusent précisément de se plier à la fatalité, parce qu'ils placent leur confiance en l'Éternel, le Dieu qui s'évertue inlassablement à libérer notre vie de toutes les formes de déterminisme. Ainsi, le croyant réagit de façon un peu compulsive à cette histoire que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire du vizir de Bagdad. Il y avait une fois dans Bagdad un vizir et un calife. Et un jour, le vizir arrive devant le calife. Il est pâle, il est tremblant. On sent qu'un choc émotionnel l'a secoué. Et il lui dit « Pardonne mon épouvante, lumière des croyants. » Mais devant le palais, voilà qu'une femme m'a heurté. Je me suis retourné, et cette femme, au teint pâle, les cheveux sombres, la gorge voilée par une écharpe rouge, était la mort. En me voyant, elle a fait un geste vers moi, et puisque la mort me cherche ici, Seigneur, permets-moi de fuir loin d'ici, et de me rendre au plus vite à Samarcande pour aller me cacher là-bas. Si je me dépêche, je pourrai y être avant ce soir. Alors le calife laisse son vizir s'enfuir à Samarcande aussi vite qu'il peut. Et puis, pendant que l'un est en train de s'éloigner au grand galop, disparaissant dans un nuage de poussière, le calife se sort de son palais. Il se promène, lui aussi, dans les rues de Bagdad et il rencontre, lui aussi, la mort. Alors, il va la voir et il lui dit « Mais pourquoi avoir effrayé mon jeune vizir qui est si bien portant ?» Et la mort lui répond « En fait, je n'ai pas voulu l'effrayer. Mais en le voyant, j'ai eu un geste de surprise, en effet. Je l'attends ce soir à Samarcande. » Eh bien, voyez-vous, frères et sœurs, ce passage du Deutéronome nous révèle que le croyant, lui, ne s'enfuit pas à Samarcande. Il renvoie la mort afin d'être heureux et de prolonger ses jours. Amen.